Chapitre 8. Maman Soulasse, histoire d'une mère. Vers 7 heures, à quelques pas de là, une scène assez curieuse avait lieu. Elle tient trop de près à notre drame pour que nous puissions nous dispenser de la mettre sous les yeux du lecteur. Il nous faut pour cela tourner de nouveau le coin de la rue de Jérusalem, rentrer dans l'établissement du père Boivin, et monter encore une fois les 3 étages du fameux escalier en colimaçon. Ce sordide palier entouré de 3 portes bâtardes, chasse réservée de clampins dits pistolets, est décidément notre principal rendez-vous. Madame Soulasse dormait depuis longtemps déjà. Elle fut éveillée par un bruit faible qui venait du carré. Elle se mit sur son séant pour écouter. « C'est Monsieur Paul qui rentre, pensa-t-elle. On voudrait être quelque chose pour faire le bonheur d'un pareil amour de jeune homme. » Mais Monsieur Paul, quand il rentrait de nuit par hasard, allait droit à sa porte et l'ouvrait. C'était l'affaire d'un instant. Il savait son chemin. Ici, le bruit persistait. On eût dit un homme qui tâtonnait, ou peut-être un animal. « Je suis bête, se dit Madame Soulasse. Les minets, c'est comme tout le monde. Quand on les appelle, ça s'en va, mais dès qu'on ne les appelle plus, ça veut revenir. » Cette réflexion philosophique la fit sourire. Elle mit un pied hors de son lit, puis l'autre. Les chats ont ce privilège d'inspirer des tendresses presque maternelles. « Quel vagabond !» reprit-elle. « Il y en a dans le quartier, des minettes !» Elle chaussa ses pantoufles et traversa la chambre. « Mou, mou, mou » appela-t-elle doucement, pendant qu'elle tenait la porte entrebâillée. « Mou, mon minochon, mou, mou !» Puis, changeant de ton tout à coup et tirant à soi la porte pour s'en faire une défense, elle ajouta « Il y a quelqu'un ? Que voulez-vous, l'homme, à l'heure qu'il est ?» À 3 pas d'elle, juste sous le jour de souffrance qui laissait sourdre quelques rayons de lune, elle venait de distinguer une grande ombre immobile. « Madame, répondit l'ombre d'un ton qui ne s'entendait pas souvent dans la maison Boivin, je ne connais pas les êtres, c'est la première fois que je viens ici. Dans l'obscurité, toutes ces portes se ressemblent. Je cherche celle de Monsieur Gautron. Son nom doit être écrit au dehors. » Madame Soulasse ne répondit point tout de suite. Il semblait qu'elle écoutât encore après que l'étranger eût fini de parler. Sans qu'elle lui pût dire pourquoi, cette voix l'avait fortement frappée. « Gautron, murmura-t-elle. Enfin, connais pas. Mais attendez donc, ces messieurs ont parlé de Gautron toute la soirée. Il y a une affaire Gautron. » Elle rentra et alluma vivement sa chandelle en ajoutant « C'est peut-être le nouveau locataire du numéro 9. Nous allons voir. » Avant de venir sur le carré, elle passa un jupon à une camisole. « Il y a, songeait-elle, des voix qui vous retournent sans dessus-dessous. » Elle sortit enfin, tenant son bougeoir à la main, et alla droit à la porte de la tour qu'elle l'éclaira. « Ah, rien, dit-elle, pas un brin d'écriture. »« Et l'autre ?» demanda l'étranger. « L'autre ?» commença Madame Soulasse. Elle n'acheva point parce que, machinalement, elle avait éclairé la porte de Paul Labre. « Hein ? » fit-elle, « la carte est arrachée. Il veut nous quitter, bien sûr. » L'étranger, cependant, dit avec un accent de trouble qui allait presque au découragement, « Madame, je vous remercie, veuillez me pardonner de vous avoir dérangé. » Au son de cette voix qui la frappait pour la seconde fois, Madame Soulasse se retourna, son regard tomba sur l'étranger. Elle recula, et son bougeoir faillit lui échapper des mains. L'étranger ne prit pas garde, parce que, se ravisant, il heurtait à la porte du numéro 9 en appelant « Monsieur Gautron ! Monsieur Gautron !» Il n'y eut point de réponse. L'hôtesse lui toucha l'épaule par derrière. « Il faut entrer chez moi, dit-elle, d'un accent qui força l'attention de l'étranger. « Bonne dame, balbutia-t-il, est-ce que vous me connaissez ?» Thérèse répondit « Vous êtes le général comte de Champmas. » L'étranger se redressa. « C'est vrai, dit-il, mais je ne me souviens pas de vous avoir jamais vu. » Un sourire amer essaya de naître sur la lèvre de Madame Soulasse, qui répéta « Il faut entrer chez moi, les gens qui se cachent ne sont pas bien ici. Passez, monsieur le comte. » Et comme le comte hésitait, elle ajouta « J'aime vos 2 petites demoiselles. » Le général passa le seuil aussitôt. Dès qu'il fut entré, Madame Soulasse ferma la porte et mit le verrou. Asseyez-vous, dit-elle, vous êtes chez une honnête femme. Le général s'assit. L'hôtesse dit encore, voulez-vous boire et manger, c'est de bon cœur que je vous l'offre.
Je n'ai ni faim ni soif, répondit le général.
Alors l'hôtesse demanda, puis-je vous rendre un service?
Peut-être, murmura monsieur de Champmas.
Thérèse s'assit et répéta, comme si elle eût parlé sans savoir, « J'aime vos deux demoiselles, l'aînée que je connais et la cadette que je n'ai jamais vue. On dit que c'est un pauvre ange du bon Dieu. »
« Il y a bien longtemps, prononça le comte à voix basse, que je n'ai embrassé mes filles. »
« Ah !» fit Thérèse, qui croisa ses mains sur ses genoux. « Je n'ai pas tout dit, je connaissais l'autre aussi, la sainte, celle qui est morte. »
« Je n'ai jamais eu d'autre enfant, commença le général. »
Thérèse l'interrompit et dit avec effort, « Je parle de madame la comtesse de Champmas, votre femme. » Elle était très pâle, et sa physionomie exprimait une profonde émotion.
« Qu'est-ce que vous veniez demander à ce Gautron ? » reprit-elle tout à coup.
« J'ai confiance en vous, madame, dit le général. Ceux qui ont préparé mon évasion, en quelque sorte sans mon aveu, m'ont fait savoir que ce Gautron me donnerait les moyens de quitter Paris et la France.
Voilà tout ? Voilà tout. »
Thérèse réfléchit un instant. « À cette table où vous appuyez votre coude, dit-elle brusquement, 6 inspecteurs de police déjeunent et dînent tous les jours. »
Le général ne sourcilla pas.
« Oh, reprit-elle en souriant avec tristesse, je sais bien que vous êtes brave. C'est pour vous dire que vous pouvez rester ici longtemps. » Elle se leva et ouvrit son armoire, d'où elle retira un costume complet d'ouvrier aisé, plié avec un soin religieux.
« Je suis veuve, dit-elle, et j'aimais mon mari. Il le fallait bien, il était si bon.
Il y a des hommes qui sont de nobles créatures, monsieur le comte. Mettez cela, je vais tourner le dos, pendant que vous vous habillerez. »
Elle tendit les vêtements au général, qui la considérait attentivement désormais comme si un vague souvenir se fût réveillé en lui.
Elle alla s'asseoir à l'autre bout de la chambre, mais elle ajouta,
« Oui, oui, j'aimais bien mon mari, pauvre cher homme. »
« Pourquoi me parlez-vous ainsi, bonne dame ?» demanda le général, qui commençait sa toilette.
« Parce que je pense à défunte votre femme, répondit Thérèse. Mon mari était presque aussi bon que la comtesse de Champmas.
« Ma bien-aimée femme, vous avait-elle donc rendu un service ?»
Thérèse hésita, et puis elle répliqua avec une sorte de rudesse.
« Comme vous l'entendez, non. Avez-vous fini ?»
Le général passait la redingote de gros drap.
« Je finis, répondit-il.
Madame Soulas lui mit une serviette blanche sur les épaules et prit une paire de ciseaux.
« Je vais couper vos cheveux et abattre votre moustache, dit-elle.
« J'allais vous le demander, répliqua le fugitif.
Quelques boucles de beaux cheveux bruns, où déjà les fils d'argent abondaient, tombèrent sur le carreau.
« Votre main tremble, bonne dame, dit le général.
« C'est que je me fais vieille à présent, répondit Thérèse.
Il n'y eut pas d'autres paroles échangées. Thérèse mit une mante et un bonnet.
« De quel côté voulez-vous aller ? » demanda-t-elle.
« Route de Normandie, répondit M. de Champmas. Si je peux atteindre le Havre, je passerai facilement en Angleterre.
« Venez donc, vous êtes mon mari, et nous allons voir notre enfant malade à Saint-Germain. Voilà toute l'histoire. »
En disant ces mots, sa voix trahissait une étrange émotion.
Ils sortirent. Le général, dans la rue, lui offrit son bras. Quel prix! Ils passaient à la rivière et montaient à la rue de la Harpe jusqu'à la hauteur de la Sorbonne. Là, madame Soulas s'arrêta devant une porte cochère qui ressemblait à l'entrée d'une ferme et au-dessus de laquelle une lanterne presque éteinte montrait en silhouette une voiture attelée d'un cheval avec cette légende « Flamand, loueur et messager ». Elle frappa longtemps en vain. Au bout d'un gros quart d'heure, on vint ouvrir.
« Que diable veut-on à une pareille heure ?» demanda une grosse voix endormie.
« Nous venons de la part de Monsieur Badois, » répliqua Thérèse.
« Diable, Monsieur Badois !»
Et puis on ajouta, « Va bien, Monsieur Badois ?»«
Pas mal, merci. Je suis Madame Soulas, la maîtresse de l'ordinaire de ces messieurs, rue de Jérusalem. »«
Ah, maman Soulas, bonne soupe, une renommée, quoi. Et après, mon mari et moi... »
« Tiens, tiens, » fit la grosse voix, « je la croyais veuve, madame Soulas.
« Voici mon mari avec moi, monsieur Flamand, » dit Thérèse, qui se força de rire.
« Va bien, le mari, tant mieux. Et après,
nous allons aller à Saint-Germain. »
Demain matin, c'est dit. Bonsoir, madame Soulas, à l'avantage. Non, tout de suite. On nous mande par exprès pour un enfant malade. Combien nous prendrez-vous? 50 francs et les guides.
Thérèse se récria. Soit 50 francs et les guides, dit le général, qui n'avait pas encore parlé.
Fameux papa, Soulas, s'écria monsieur Flamand. Il ne parle pas souvent, mais il parle d'or. Entrez voir, tous deux. Bijoux à ses mouches, coco boîte, je vais vous atteler Marion. Ça n'a pas de mine, mais ça allonge comme une folle. Bonne bête, madame Soulas.
Le général et sa compagne s'assirent dans l'écurie pendant qu'on attelait. En passant, monsieur Flamand leur mit une fois sa lanterne sous le nez.
« Excusez, fit-il, papa Soulas n'est pas encore trop déchiré. Qu'est-ce qu'il a, le mioche? Le farcin court. Nous avons perdu 2 poulains la semaine passée. »
Au bout d'une grande demi-heure, un véhicule appartenant au genre coucou se trouva attelé. Le général et Thérèse prirent place à l'intérieur. Monsieur Flamand s'assit sur l'un des brancards. Sa femme, en chemise et bonnet de coton, ouvrit les battants branlants de la porte cochère.
« Hé, Marion, poison » cria-t-elle, « gagne ta vie !»
La vieille jument trembla sur ses 4 pieds, le pavé égratigné fit feu et la carriole s'ébranla.
« À te revoir, maman Flamand !» dit le loueur. « Attention à Bijoux, mijot de coco, tu conduiras s'il vient du monde. « Hé, poison !»
Oh, ça ne ressemble à rien, ça allonge comme un serpent. La femme ne perd pas trop de temps à dorloter les petits, rapport aux bêtes.
La carriole descendait K1K la rue de la Harpe. Il est certain que Marion n'avait pas d'apparence, mais pour allonger, jamais. Jusqu'à la barrière de Neuilly, la route fut silencieuse. À la barrière, la double évasion de Coyatier et du général avait été signalée. On visita la voiture et madame Soulas de répéter sa fable. Du reste, la vue seule de Marion témoignait de ce qu'on n'entreprenait point un voyage de long cours. Aussitôt la barrière franchie, le général dit « Ah, bonne dame, sans vous, j'étais probablement perdu. Je ne voudrais point vous blesser, mais j'ai grand désir de vous prouver ma reconnaissance. Aidez-moi, que puis-je faire pour vous ?»«
Rien, » répliqua Thérèse.
« Êtes-vous heureuse ?»«
Je ne suis ni heureuse ni malheureuse. »
« Le métier que vous faites vous plaît-il ? »
« Non, mais il ne me déplaît pas. »
« Vous avez l'air d'avoir connu des temps meilleurs. »
« Je suis une paysanne, et j'étais la femme d'un ouvrier. »
Il y eut une pause. Le général reprit, avec un certain embarras, « Il m'a semblé un instant que je vous avais vu autrefois quelque part. »«
Vous vous êtes trompé, » répondit Thérèse, avec un singulier accent.
« Pourtant, vous me connaissez. »
Une femme comme moi peut connaître un homme comme vous sans être connue de lui.
Autre pause.
Bonne dame, dit encore le général, j'avoue que je suis intrigué. Vous avez été envers moi compatissante, excellente, et pourtant il semble qu'il y ait en vous, contre moi, je ne sais quelle amertume.
Thérèse eut un rire sec. N'allez-vous pas croire que j'ai de la rancune, dit-elle. Si je vous ai fait mal, sans le savoir... Elle l'interrompit par un second éclat de rire.
« Vous avez deviné, murmura-t-elle. Un jour que vous passiez dans votre belle voiture, j'étais sur le trottoir et vous m'avez éclaboussé. Il y a des taches qui restent.
Je donnerais beaucoup pour voir votre visage au moment où vous me parlez ainsi, pensa tout le général.
Thérèse répondit, « Vous l'avez vu, je n'ai pas changé depuis tantôt.
Avez-vous des enfants ? Demanda le général.
« J'ai eu une fille, » murmura Thérèse, dont la voix s'altéra tout à coup.
« Vous êtes donc seule au monde ?»«
Toute seule. »«
Je vous disais, » poursuivit le général après un silence, « je suis intrigué. J'ajoute, je suis embarrassé. J'ai de la fortune. »«
Tant mieux pour ceux que vous aimez, » dit vivement Thérèse.
Le général la regarda fixement malgré l'obscurité.
« Voyons, fit-il avec bonhomie, n'y a-t-il pour moi aucun moyen de reconnaître le service que vous m'avez rendu ?»«
Si fait. »«
Dites. »
Thérèse réfléchit, puis elle murmura, « Vous me donnerez une lettre pour mademoiselle Isolde de Champmas, et j'irai embrasser vos 2 filles. C'est un caprice que j'ai. »«
Je le ferai, chère dame, mais si vous me disiez votre histoire, je suis sûr que mon embarras cesserait. »
Dès qu'on connaît bien une personne, il y a 1000 moyens de s'acquitter envers elle.
Thérèse se renfonça dans un coin et répondit péremptoirement, « Je n'ai pas d'histoire. »
Mais se ravisant tout à coup, elle ajouta d'un accent profond, «
Si c'est pour passer le temps, j'en sais une qui vous intéressera. Écoutez. On n'était encore qu'à Neuilly. Monsieur Flamand avait beau crier de 10 pas en 10 pas. Hé, Marion, poison! Marion allongeait de moins en moins. Elle tenait peut-être à l'honneur de mériter les injures du patron. Quand le fouet se mettait de la partie, la carcasse dégingandée de la pauvre bête essayait un effort convulsif, puis ses oreilles se reprenaient à pendre et ses jambes de bois revenaient à leur allure habituelle. « C'est l'histoire d'une amie à moi, » dit Thérèse après un silence, « une vraie amie, ma seule amie, une paysanne comme moi, du même village que moi. J'ai peut-être été trop loin en annonçant qu'elle vous intéresserait, cette histoire, car vous êtes un militaire et vous devez en savoir beaucoup de semblables. Elle s'appelait Madeleine. Elle était la fille d'un petit fermier, qui ne roulait pas sur l'or, assurément, mais qui ne demandait rien à personne. Son père l'aimait bien, il lui donnait trop. Elle avait de beaux yeux rieurs, une taille souple et forte, des cheveux qui auraient valu 10 pistoles en foire. Ah, on lui offrit bien souvent 3 ou 4 louis d'or, mais pour argent ni or, elle n'eût vendu ses cheveux. À force de lui donner, son père l'avait rendue coquette. C'était ici ou là, qu'importe le nom du village. Le général comte de Champmas ne connaît guère que le village dont il est le seigneur. Car on a beau faire des révolutions, il y a toujours des seigneurs, et ceux qui passent riches et brillants dans un pauvre pays emportent toujours le bonheur des familles avec eux quand ils s'en vont. À la foire, les charlatans ne prennent que les cheveux qui sont à vendre. Les cœurs, c'est différent. D'autres charlatans savent les voler de nuit, et il n'y a point de loi pour châtier ceux qui s'en vont avec l'honneur et le bonheur des maisons. Dans notre village, qui n'était pas loin de la ville, on faisait l'élevage des chevaux. À cause de cela, chaque ferme avait de grandes et belles écuries. Quand les troupes passaient, on mettait les fantassins à la ville et les cavaliers chez nous. « Quel nom a votre village ?» demanda ici le général. « Oh, Saint-Yon, Saint-Même ou Saint-Jacques, répondit Thérèse, avez-vous de la curiosité pour si peu ?» Et près de quelle ville est-il situé? Auprès de Dijon, d'Orléans, ou bien d'Arras? Je veux laisser un voile à ma pauvre amie Madeleine, qui était si joyeuse et qui pleura tant de larmes de sang. Le comte se tut. Thérèse poursuivit. Une fois, il vint dans mon village un régiment si beau que tout le monde quitta les champs pour le voir passer sur la route. C'était des cavaliers. Ils avaient des vestes rouges qui fuselaient la taille des jeunes officiers comme font les corsets pour les dames. Pourquoi les soldats ont-ils le même genre de coquetterie que les femmes? Celui de Madeleine, car Madeleine aima un soldat, la pauvre créature, mettait du noir sur sa moustache et de l'essence dans ses cheveux. Et il avait un corset plus étroit que la ceinture de Madeleine. Il portait des pantalons bleus avec de larges bandes d'argent. Leurs bottes éperonnées brillaient au soleil. Sur leur tête, les chapskas étincelants s'inclinaient, et le vent jouait avec les minces banderoles qui flottaient au bout de leurs lances. Le général changea de position sur la banquette de la carriole, qui, à la vérité, était dure remarquablement. « Hé, Marion, poison !» ordonna Monsieur Flamand en songe. Il dormait, Marion aussi. « Madeleine avait 18 ans, poursuivit Thérèse. Malgré sa coquetterie de fillette étourdie et vaine, je n'ai jamais rencontré de cœur plus candide que n'était le sien la veille du jour où vint ce beau régiment de lanciers. Le lendemain, je vous l'ai dit, vous en savez des centaines de ces pauvres histoires, le lendemain, Madeleine avait quelque chose à cacher à son père et au curé. On lui avait baisé les 2 mains là-bas, sous le châtaignier. Elle n'aurait jamais cru qu'un homme pût être si beau, ni murmurer de si douces paroles à l'oreille des jeunes filles. Celui-là était un officier, il parla de Paris, de robes transparentes, de perles, d'amour, que sais-je. Madeleine ne m'a jamais dit s'il prononça le mot « mariage », mais pour Madeleine, telle qu'elle l'était alors, il n'y avait point d'amour sans mariage. Avec ses pauvres enfants pour tromper, on n'a même pas besoin de mentir. Ils restèrent 3 jours, les lanciers. Pour Madeleine, c'était un fiancé qui partait. Il avait dit, comme ils font tous, « Je reviendrai ». Et voyez la folie de ces pauvres filles. Madeleine ne savait même pas le nom de son fiancé. Dans son cœur, elle l'appelait Charles. Que faut-il de plus pour pleurer? Il ne revint pas. Est-ce qu'il revienne jamais? Quand Madeleine fut mère, elle eut pour la première fois la pensée de chercher le père de son enfant. elle écrivit une lettre. Au moment de mettre l'adresse, elle se sentit défaillir. À Monsieur Charles, capitaine de Lancier. Charles qui ? Elle déchira la lettre. Elle était alors à la ville et à l'hôpital. Il y avait beaucoup d'orgueil dans la tendresse de son pauvre père qui lui donnait trop. Son déshonneur tuait l'orgueil de son père. On l'avait chassé. Un jour, elle se trouva seule dans la rue avec son petit enfant sur les bras. Elle ne savait pas beaucoup travailler, elle n'aurait pas osé mendier si près de son père. Dieu est bon. Et voilà que passe un beau régiment, des lanciers. Charles, oh mon Charles ! Madeleine faillit devenir folle de joie. Le beau capitaine avait gagné une grosse épaulette. Il rougit à la vue de Madeleine. Officiers et soldats se mirent à rire et nul ne s'arrêta. Madeleine s'assit sur une pierre. Elle crut s'être trompée, car elle ne voulait même pas penser que Charles n'avait pas de cœur. Elle avait raison, quoiqu'elle ne se fût point trompée. Charles avait du cœur comme ils en ont. La nuit tombait. Le pavé sonna sous le galop précipité d'un cheval. « Madeleine, où es-tu, Madeleine ?» Elle lui tendit son front en pleurant. Il ne l'embrassa point, il avait grande honte. Mais n'était-ce pas beaucoup déjà que d'être revenu ? Il dit, « Vous ne manquerez jamais de rien, Madeleine, et ni l'enfant non plus. Tenez, voici de l'argent. » Il ne la tutoyait plus, mais cette fois, il prononça son nom, son vrai nom. Oh, c'était un honnête homme. Il ajouta bien doucement et bien froidement, « Quand vous aurez besoin, écrivez-moi. Adieu. » Et le cheval galopa de nouveau. Madeleine embrassa sa petite fille. Elle souffrit beaucoup en sa vie, mais ce jour-là, elle eut sa plus grande souffrance. C'était un honnête homme. Elle ne manqua de rien, ni sa petite non plus, mais elle était frappée à l'âme et sa santé s'en alla. Une fois, elle écrivit. Elle était à Paris, à l'hospice Dubois, où l'on payait sa chambre, comme si elle avait été une dame. Elle écrivit, « J'ai peur de mourir et de la laisser seule, venez. » Il vint, et de bien loin, il vint tout de suite, c'était un honnête homme. Madeleine ne pouvait plus parler, elle avait une religieuse qui la gardait. Ce fut un colonel qui entra, il était toujours jeune, toujours beau. La petite jouait dans un coin, il la prit sur ses genoux et l'embrassa 100 fois. Madeleine n'avait pas perdu la vue, elle vit cela. Quand il eut 100 fois embrassé l'enfant, il vint vers le lit et regarda la malade avec bonté. Il lui prit même la main. Il y avait longtemps que le cœur de Madeleine n'avait battu si vite. « Ma sœur, dit-il à la religieuse, Madeleine n'avait pas perdu Louis, je suis le père de cet enfant. Si la pauvre femme mourait, je reconnaîtrais ma fille. » La petite, qui avait entendu, s'éloigna de Louis en pleurant. « Maman ne mourra pas, je ne veux pas que maman meure. » « Hi, Marion !» cria M. Flamand à sa bête, qui s'était arrêté court au beau milieu du pont de Nanterre. « Eh, carcan, poison, guenon, taupe, chenille, savoyard, hi, carliste !» Sur cette dernière injure, accompagnée d'un déluge de coups de fouet, Marion s'éveilla en sursaut et reprit sa marche cahotante. Le général prononça très bas, « Madame, je suis maintenant un vieil homme. Vous avez touché une plaie qui jamais ne se fermera. » « La mère d'Isole est-elle vivante ?»« Vous savez bien qu'elle est morte, » répondit Thérèse, une voix sourde. « Voulez-vous que je m'arrête ? Je n'ai pas l'intention de vous faire souffrir. » Le général, qui était immobile et droit sur sa banquette, répliqua d'une voix grave. « Continuez, je vous prie, je désire tout savoir. » Thérèse poursuivit aussitôt. « Vous savez bien qu'elle est morte, puisque 3 semaines après, vous reçûtes l'enfant habillé de deuil. » « Je l'ai dit, et je le répète, général, vous êtes un honnête homme. » La petite fille fut reconnue, elle vécut près de vous et porta même votre nom jusqu'au jour de votre mariage. Seulement, sa mère l'appelait Charlotte et vous la nommâtes Isole. Vous ne vouliez rien garder de sa mère. « Ne vous défendez pas, monsieur le comte, le monde est ainsi, vous n'êtes pas fait autrement que les autres. Il vous déplaisait de regarder si bas au-dessous de vous la misérable créature dont vous aviez brisé l'existence. » Le général passa sa main sur son front et dit, « N'a-t-elle rien pardonné pour tout l'amour dont j'ai entouré sa fille ?»« Elle a pardonné tout depuis bien longtemps, » répliqua Madame Soulas, « et si une voix parle pour vous, au pied de Dieu, c'est la sienne. Vous alliez être officier général, et vous alliez vous marier, s'il y avait un obstacle, Isole, l'enfant qu'on appelait Mademoiselle de Champmas. On savait que vous n'étiez pas veuf. Monsieur le comte, vous avez perdu une sainte, mais vous ne connaissiez pas son cœur tout entier. Madame la comtesse de Champmas avait un secret pour vous. Oh, ne craignez rien. Si vous aviez eu le temps de visiter sa tombe avant de quitter Paris, vous y auriez trouvé des fleurs nouvelles. Une bien pauvre main vous a remplacé dans ce soin pieux. Il m'est arrivé parfois d'intercéder auprès de votre femme défunte, comme je prie ma patronne avec ce reste de foi que j'ai apporté du pays. Vous fûtes étonné, heureux, reconnaissant, quand la noble jeune fille dont vous sollicitez la main vous dit un jour « Comte, vous êtes père, ceux qui m'aiment et qui me conseillent hésitent. Moi, je veux inaugurer mon bonheur par un bienfait, qu'il n'y ait point de pleurs dans notre maison. La mère d'Isole n'est plus, je consens à légitimer Isole par acte secret annexé à notre contrat de mariage. » « Vous savez cela ?» balbutia le général. « Voici ce qui s'était passé, » reprit Thérèse. « La veille, une femme s'était présentée à la demeure de votre fiancé, sous prétexte d'implorer une aumône. On pouvait toujours lui demander, comme il est permis à tous de prier les anges. Une fois introduite, au lieu de quêter la charité, l'étrangère raconta une pauvre histoire, l'histoire de Madeleine. « C'était vous ?» interrompit le général. « C'était moi, et j'affirme que dans cette entrevue, il ne fut rien dit qui pût diminuer l'affection ni le respect qu'une femme doit à son mari. Elle était d'un monde où, en définitive, l'idée ne doit même pas naître qu'un homme comme vous doive épouser une fille comme Madeleine. Mais elle était saintement femme, et la dette contractée envers l'enfant lui apparut dans toute sa rigueur. Elle avait un cœur d'or, et le sacrifice de la mère la remua jusqu'au fond de l'âme. » Car je lui dis, monsieur le comte, l'entrevue de l'hospice du bois. Elle vit la triste créature couchée sur son lit de douleur, la petite fille jouant près de la fenêtre, la religieuse froide et faisant le bien comme on accomplit une tâche. Elle vit le soldat heureux et brillant franchissant ce seuil morne. Elle l'entendit qui disait, croyant peut-être beaucoup dire, « Ma sœur, je suis le père de cet enfant. Si la pauvre femme mourrait, je reconnaîtrais ma fille. » « J'ai donc dit cela, » murmura le général. « Et j'ajoutais, » poursuivit Thérèse, dont la voix avait d'étranges émotions, « j'ajoutais, parlant à celle qui allait être votre femme, « mademoiselle, la mère entendit ces paroles si cruelles et si douces. Quelque chose se brisa au-dedans d'elle, quelque chose qui était le meilleur de son cœur, le lien sacré de la mère à l'enfant, l'ardent égoïsme de la passion maternelle. » La mère plana au-dessus des attaches mêmes de la nature, elle déchira avec une angoisse pleine de délices tout ce qui était le charme de sa misérable vie, elle se jugea nuisible au bien de sa fille, se condamna comme étant un obstacle au bonheur de son Isole. Elle se tua. « Elle se tua ?» répéta le général en frissonnant. « Je parle moralement, » dit Thérèse, dont l'accent se voila. Il suffisait de la maladie sans qu'il fût besoin de recourir au suicide. « Monsieur le comte, votre fiancée m'écoutait en pleurant. Quand elle l'eut fini, elle me dit « Je paierai la dette de monsieur de Champmas, je la paierai tout entière. » Elle l'a payée. Plus tard, il est vrai, quand la jalousie maternelle naquit dans son cœur, elle exigea l'éloignement de l'étrangère, mais le bienfait subsiste. Isole est l'aînée des demoiselles de Champmas, et l'amour de leur père se partage entre elles également désormais. La carriole s'arrêta devant la porte d'une auberge dans la rue du château à Saint-Germain. « Oh, Marion !» fit monsieur Flamand. « Descendez voir les bourgeois. La Guenon n'a affronté qu'une fois en route. Combien de temps allez-vous rester ici ?»«
1 heure, » répondit madame Soulas, « et je reviendrai seul. »«
À votre volonté, maman, ça allonge, pas vrai? Quoique l'apparence n'y est pas, ça allonge comme un tigre. »
À quelque distance de l'auberge, une lanterne enseigne brillait. C'était le bureau des diligences de Rouen. Thérèse et le général se dirigèrent de ce côté.
Et « Jamais vous n'avez essayé de vous rapprocher d'elle ?» demanda le général, très ému.
« Si la pauvre femme meurt, je reconnaîtrai ma fille, » prononça lentement Thérèse, avant de répondre.
Ces mots dictaient une conduite à la mère et à celle qui devait remplacer la mère. Il vous fallait la fille d'une morte, vous l'avez eue. Le général baissa la tête.
En arrivant à la porte du bureau, il dit encore « Au nom de Dieu, êtes-vous Madeleine ?»«
Pour la troisième fois, je vous l'affirme, » répondit l'hôtesse d'une voix ferme. « Madeleine est morte, bien morte. »
« Et vous ne voulez rien accepter de moi ?»
Thérèse hésita.
« Si fait, » répondit-elle enfin.
« Oh, demandez !» s'écria le général. Elle l'interrompit pour dire froidement « Ma demande est déjà faite. Depuis longtemps, j'ai envie d'embrasser la fille de Madeleine, et aussi la fille de Madame la Comtesse de Champmas. »
« Grand et digne cœur, » murmura le comte en lui tendant les mains.
« Si vous voulez me donner un bout de lettre avant que je m'en aille, » poursuivit Madame Soulas, « cela me fera plaisir. »
Les grelots de la diligence tintèrent à l'autre bout de la rue. Le général déchira une page de ses tablettes et écrivit ces mots « Isole, suavita, mes filles chéries, aimez et respectez celle qui vous portera ce mot comme vous m'aimez, comme vous me respectez moi-même. »
Pendant qu'il écrivait, Thérèse demandait au conducteur « Y a-t-il de la place pour Rouen ?»«
Une seule, rotonde.
Je la retiens. »
« Adieu, Soulas, » ajouta-t-elle en se tournant vers le général.
« Monte, mon homme, et bon voyage !»
Elle prit le papier qu'il lui tendait et murmura « Je n'abuserai pas, monsieur le comte, je ne les embrasserai qu'une fois. »